Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je téléphone par rapport à un rêve que j'ai fait il y a quelques temps, qui est assez simple. Je suis dans une pièce, je sais qu'il fait nuit. Il n'y a pas de fenêtre apparente, mais je sais qu'il fait nuit. Je sais qu'à un moment, il y a des objets qui se déplacent dans l'espace, comme on peut dire, quoi. Je les vois pas se déplacer, mais je ne sais pas si c'est des objets. En tout cas, je sais qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'air, et je dis, c'est qui ? À moitié comme un jeu, à moitié un peu agacé, parce que je vois pas ce qui se passe, et enfin, je me demande ce qui se passe, quoi. Et en fait, donc, pas de réponse. Simplement, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une musique qui commence à arriver, qui s'amplifie, qui devient très très forte. Et alors là, je regarde dans le couloir, hein, et je vois un couloir complètement enténébré. Un couloir avec un lourd parquet au sol, avec des lattes de bois, la marqueterie assez forte, quoi. Je vois de la pénombre un peu plus dans le couloir, il n'y a absolument rien qui bouge. Et je sais qu'il y a des gens qui dorment plus loin, et que, en fait, la musique ne les réveille absolument pas, alors que la musique est très très forte. Donc, forte sans être tonitruante, si vous voulez, elle est intense, quoi. Je l'entends fortement, quoi. Donc je me rends compte que je suis le seul à réceptionner cette musique. Et voilà, c'est la fin du rêve.
Alors quand vous avez, quand vous entendez cette musique, vous regardez dans une pièce, c'est ça ?
C'est-à-dire que je suis dans une pièce à peu près carrée, et puis j'entends cette musique. Comme ça, je sais pas du tout d'où elle sort. Je vois pas de chanifi ni rien du tout. Et je l'entends après que j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose dans l'espace qui bougeait, quoi. Mais je ne sais pas quoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est cette musique en fait qui bougeait, quoi. Et après, je regarde dans un couloir qui se situe à côté de la pièce. Donc j'ai ouvert une porte, mais d'accord. J'ai pas vu la porte.
C'est un couloir, c'est ça.
C'est juste un couloir. Je vois le couloir, c'est avec les lattes, comme ça. Et puis je vois au bout du couloir et c'est vraiment la pénombre. Il fait vraiment nuit noire. Hein. Et je sais que derrière il y a des gens qui dorment et que la musique ne réveille pas, quoi. Et ça ne semble absolument créer aucun dérangement, rien du tout.
Oui, là, ce qui est représenté, c'est la capacité que vous avez à percevoir des signaux que les autres ne perçoivent pas.
Ouais.
Donc c'est votre différence qui est montrée dans le rêve.
Ouais.
Vous avez une réceptivité.
Ouais.
Qui vous fait penser que les autres sont endormis.
Donc un côté médiumnique, quelque chose comme ça, vous voulez dire ou...
Pas forcément, mais une sensibilité que les autres n'ont pas forcément.
Mm-hmm.
Donc, vous pouvez le décrire comme vous l'entendez.
Ouais.
Simplement, vous avez une ouverture qui n'est pas celle de tout le monde. Mmh. Et ce qui vous fait penser que les autres peuvent être endormis parce que vous vous définissez comme étant la norme. Mais la norme n'est pas forcément celle que vous ressentez.
Mmh.
Elle peut être en deçà ou en dessous.
Oui, c'est ça. Ok. Oui, d'accord. C'est très à double tranchant, on va dire, quoi.
Pas forcément, puisque là c'est plutôt une ouverture qui est décrite.
Bah, c'est-à-dire que moi ce qui me frappe quand même, c'est que c'est une pièce qui est close, quoi, quand même, et qu'il n'y a pas du tout de fenêtre, quoi. C'est ça qui me pose question, quoi.
Oui, parce que vous êtes à l'intérieur de vous-même.
Ouais, c'est ça.
Et vous n'avez pas besoin d'ouverture, donc là à ce moment-là, ce serait peut-être une qualité médiumnique qui est présentie.
Mm-hmm.
C'est que vous n'avez pas besoin d'ouverture habituelle, c'est-à-dire que ce soit les fenêtres.
Mm.
Les fenêtres seraient les yeux.
Ouais.
C'est plus dans le son que vous êtes...
D'accord, c'est vraiment un rapport à l'espace intérieur, en fait, quoi.
Oui, et comme il n'y a pas d'ouverture non plus, c'est un son intérieur. Mmh. Donc vous avez des réceptions intérieures qui sont fortes,
ouais.
Et qui peuvent être parfois perturbantes pour vous.
Oui, très. Très, parce que socialement, c'est une catastrophe, quoi. On se sent complètement décalé avec ce genre de choses, quoi.
Oui. Par contre, sachant qu'aujourd'hui, c'est plus une richesse... qu'un handicap, ça peut vous permettre de vous développer davantage dans ce sens. Soit vous faites comme tous les autres, vous endormez ces sens.
Ouais.
Et c'est possible parce qu'en mettant des barrières psychiques, on peut y arriver.
Est-ce que je peux vous dire simplement, j'ai un rêve qui est très très court, que j'ai fait à peu près à la même époque, et qui n'a rien à voir avec ça justement. Donc ça me paraît tout à fait en contradiction, et ça va peut-être apporter de l'eau à votre moulin ce que vous me dites actuellement. Là.
Alors ce que je pourrais juste ajouter avant,
oui.
Que vous continuez dans un autre récit,
ouais,
c'est
ouais,
que vous avez peut-être aussi développé ces talents parce que vous avez été isolé trop longtemps. Donc vous avez besoin de vous ouvrir à des sens parce que on ne communique pas assez avec vous quand vous êtes enfant.
Mm-hmm.
Donc vous créez vous-même les objets qui se déplacent, c'est l'enfant et les sortilèges.
Ouais, mais c'est un peu refuge dans un monde imaginaire, quoi.
Oui, mais ça ne veut pas dire que ce que vous percevez soit complètement fantasmagorique.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est-à-dire qu'en éveillant ses sens, en les affinant de plus en plus, on peut percevoir des choses. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un désir profond d'entrer en contact avec l'autre, mais avec un autre qui serait semblable, quelqu'un qui est capable de communiquer sur le même mode que vous. Et donc, vous avez peut-être eu à un moment donné de votre enfance créé l'ami imaginaire ou l'entité imaginaire.
Ouais. Bah, j'ai pas eu de dialogue avec l'entité ou chose comme ça, mais bon, j'ai eu un ou deux contacts assez, présents, si vous voulez, quoi. Mais bon, pas de façon régulière, mais enfin, ça arrivait deux fois, quoi.
Oui, mais en tant qu'enfant, là, je parle de l'imaginaire, c'est-à-dire que vous êtes le démiurge, vous avez pu être le démiurge de personnages que vous créez.
Ah oui, tout à l'heure, complètement, oui, ça totalement. Ouais.
Oui, et à ce moment-là, vous affinez votre sens de réceptivité, de création, et l'entité peut prendre forme, parce que soit vous avez affaire à des fantasmes qui se matérialisent, soit vous avez affaire réellement à une entité qui n'est pas accessible au commun des mortels.
Oui, mais c'est-à-dire que ça reste très, très, très... Si vous voulez, moi, ce qui me fait appeler, c'est qu'effectivement, bon, il y a quelque chose de cet endroit-là qui est très fort, mais en même temps, si vous voulez, moi, socialement parlant, c'est invivable, quoi. Je veux dire, je me sens vraiment dans une espèce de hiatus avec le social, quoi. Alors, justement, c'est vraiment très, très court, l'autre rêve que je voulais vous dire. Simplement, c'est je me retrouve face à 3-4 gamins qui ont 14 ans, à peu près, genre skateurs avec les cheveux ébouriffés, comme on peut voir maintenant, hein. Et ils me regardent avec un petit côté effronté, d'ailleurs, de dire qu'ils savent très bien qu'ils ont passé une limite, comme s'ils devaient pas s'approcher plus. Et moi, je leur dis, mais je sens une rage absolument monstrueuse qui sort en me disant, mais foutez-moi le camp d'ici, je vous ai dit de déguerpir. Et ça, c'était très violent dans le rêve, très très violent. Donc, si oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de... J'ai fait le rêve à la même époque que l'autre. Hein. Donc, il y a vraiment une confrontation entre deux choses très différentes, quoi.
Oui, ça montre que là, vous êtes capable, à ce moment-là, de repousser ce que vous ne désirez plus. Donc, la barrière psychique commence à prendre forme et devient efficace. Vous avez besoin de, quand même, faire la part du réel et de l'imaginaire, ou du réel et de l'irrationnel, et que, par moment, vous êtes capable de mettre des serrures, des sas, de fermetures, avec ces pénétrations qui sont... qui ne passent pas par les sens habituels.
Et le fait que ce soit les adolescents de 14 ans, comme on voit maintenant, moi j'ai quand même 20 ans de plus, hein, est-ce que vous pensez pas qu'il y a un rapport à l'adolescence qui est un peu raté, quoi, je veux dire, qui est un peu... avec cette espèce de sensibilité spécifique, comme ça, on a l'impression de ne pas être socialisé comme les autres, quoi, tout simplement. Quoi.
Oui, il y a peut-être un blocage qui date de cette époque. C'est peut-être à ce moment-là que les perceptions pour vous ont été les plus fortes, et qu'il y a une évolution qui s'est arrêtée à ce moment-là. Vous vous êtes développé dans un sens plus irrationnel que rationnel.
Oui, tout à fait, complètement. Et je le paye maintenant, quoi, si vous voulez.
Oui, parce que là, vous en avez assez de ces intrusions de l'enfance dans votre monde d'adulte.
Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Mais je vois que ça ne s'arrête pas, quoi. C'est ça le problème.
Ces rêves, vous les avez faits il y a combien de temps?
Oh, c'était mois d'août, fin août.
Cette année?
Oui, oui, oui.
Bah, si vous faites ce type de rêve, c'est que vous êtes maintenant capable de repousser... Donc plus vous aurez la volonté de repousser ce qui n'est pas utile, parce que s'il y a un rapport utile avec l'irrationnel, pourquoi pas, mais si ça ne vous sert à rien, à ce moment-là, vous êtes capable de stopper.
Bah, si vous voulez, ce qui me préoccupe vraiment actuellement, c'est que je ne sais pas si j'ai suivi pas mal de choses au niveau, je suis beaucoup lu Jung, par exemple, des choses comme ça, je suis très imprégné de ça, mais je ne sais pas si en ce moment, je me sens vraiment comme... complètement déchiré entre deux à croiser des chemins, on va dire, entre le fait de poursuivre dans la spiritualité et puis le fait de me dire mais non, faut s'ancrer dans le réel, parce que Jung il dit souvent quand on fait des rêves de planerie, ben, c'est, comme vous dites tout à l'heure pour l'auditeur précédent, c'est pas bon, quoi, il faut s'ancrer dans le réel. Et ce que j'essaie actuellement de faire, c'est de m'ancrer dans le réel à toute force, mais j'ai un mal fou, quoi, c'est terrible, quoi, parce que j'ai l'impression que quelque part je suis pas complètement fait pour ça, quoi.
C'est pas complètement vrai, parce qu'à vous entendre, vous avez un discours qui est posé, rationnel, cohérent, vous n'êtes pas dispersé, il n'y a pas de tendance schizoïde qui serait manifestée.
Oui, ça j'en ai peur, c'est clair, effectivement.
Oui, mais là, donc...
Il y a un côté paranoïaque, quoi.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais.
Mais là, a priori, de la façon dont vous exprimez, de la façon posée dont vous parlez, on peut exclure les tendances schizoïdes.
Mmh. Bon, c'est toujours ça de prix.
Non, mais bon, mais par contre, est-ce qu'il y a toujours une utilité à avoir ces perceptions? C'est la question que vous pouvez vous poser.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Et à ce moment-là, si vous voyez qu'il n'y a pas d'utilité, vous pouvez vous fermer pour vous construire davantage dans un univers plus rationnel, plus concret. Arrêtez la planerie, comme vous le disiez tout à l'heure.
Oui, parce que c'est vraiment une impression que, si vous voulez, qu'il y a des choses qui ont été complètement développées dans l'irrationnel, mais complètement au détriment, de l'ancrage dans le concret. Comme vous parliez de concrétisation tout à l'heure, tous les projets que je fais, je les commence et puis je les termine pas. Enfin, il y a toujours quelque chose comme ça de cet ordre-là qui fait que j'arrive pas vraiment à concrétiser les choses qu'au bout, je reste perpétuellement insatisfait, quoi. Et comme si le fait de concrétiser quelque chose jusqu'au bout, c'était quelque chose de négatif, quoi. Il fallait que je stoppe absolument en chemin et que je revienne, je retourne à l'imaginaire, quoi.
Oui, mais là, dans ce rêve avec les skateurs, il y a une volonté de stopper non pas la réalité, mais l'imaginaire.
Ah, vous pensez que dans ce cas des skateurs, vous pensez que ce serait relié à un côté un peu immature de l'adolescence, que je dirais, bon, ça suffit maintenant, ce côté...
Oui, parce que là, c'est la version moderne de Peter Pan que vous voyez devant vous.
Ouais. D'accord.
Donc l'enfant qui est resté bloqué au stade de Peter Pan, vous voulez l'arrêter aussi. Et donc vous repoussez les enfants du pays imaginaire que vous avez réactualisé. Enfin, est-ce que vous avez vu Hook de Steven Spielberg?
Non.
Non, parce que les mauvais garçons, ils sont représentés aussi avec des planches de skateboard dans ce...
Ah non, je l'ai pas vu, non. Ah oui, d'accord, c'est marrant, ça, effectivement. De la version de Spielberg, ça.
Oui.
D'accord.
Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, c'est...
Les enfants perdus, vous voulez dire, c'est ça là,
voilà, les enfants perdus, ouais, tout à fait.
Ouais.
C'est peut-être le film le plus abouti de Spielberg.
Ah d'accord.
Oui. Je suis pas très Spielberg, mais ce film est admirable au point de vue symbolique, au point de vue construction, au point de vue réflexion.
D'accord.
Vous avez un aboutissement et une maturation qui sont vraiment très très bien exprimées dans ce rêve, dans ce film, pardon.
Ok.
Et en plus, il y a Dustin Hoffman qui joue le rôle du capitaine Crochet, donc c'est fabuleux.
Ah ouais. D'accord. Bah écoutez, on va aller voir ça alors, en ce cas-là. Donc a priori, pour vous, c'est pas un rêve négatif, donc le fait de rejeter les adolescents comme ça.
Ah non, c'est une saine colère. Je veux m'inscrire dans le monde réel.
Non, parce que je voulais dire que moi j'ai des colères qui sortent comme ça, c'est très mal perçu au niveau social. Hein. Je m'en prends plein la figure, quoi.
Ah oui, non mais alors. Oui, mais ces colères, c'est vis-à-vis de vous que vous les avez aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc si
et
c'est
ça remet en boomerang à travers ce que les gens me disent, quoi, sur moi, quoi.
Bah, c'est-à-dire si vous êtes capable de vous canaliser, vous n'aurez plus de colères intempestives qui se manifesteront vis-à-vis des autres.
Ouais, j'ai beaucoup de mal, je dois dire. Beaucoup de mal. J'ai un père très colérique et je crois que j'ai hérité de lui à ce niveau-là.
Oui, mais ce qui est étonnant, c'est de voir la maîtrise avec laquelle vous parlez, vous exprimez.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis de nombreuses années, si vous voulez, et que je l'ai payé relativement cher de ce point de vue-là, quoi. C'est ça aussi le truc.
Oui, mais on pourrait penser aussi que vous surestimez l'importance de votre mal que vous avez dépassé depuis peut-être le mois d'août. Le côté irréversible, que vous êtes maintenant du bon côté.
Oui, parce que c'était vraiment l'impression de quelque chose de complètement fatal, quoi. Je sais pas si vous avez l'impression que j'avais pendant depuis des années, c'est que vraiment j'ai l'impression de me trimballer une fatalité et que je peux pas y échapper, quoi.
Donc, oui, parce que la question que vous pourriez vous poser, comme celle que les enfants perdus pourraient se poser, c'est est-ce que vous avez besoin encore de vous exclure maintenant du réel? Est-ce que vous n'êtes pas devenu l'individu positif que vous auriez souhaité connaître en tant que père?
J'ai du mal à me penser ça, quoi. Mais oui, d'accord, enfin, je comprends ce que vous voulez dire sur la durée, quoi. Enfin, bon,
Où est-ce que vous n'avez pas rétabli les valeurs positives de l'individu masculin, du père, en voyant ce que vous êtes aujourd'hui avec du recul? Et quelqu'un capable aussi de se contrôler et donc d'arrêter même ses colères intempestives. Mais cette énergie de la colère, elle est saine dans la mesure où elle peut être une fermeture définitive. Stop.
Ouais. Est-ce que je peux vous donner une dernière image que j'ai faite la nuit dernière, simplement? C'est juste une image.
Alors, je rappelle juste avant le standard pour ceux qui sont à l'écoute.
Oui.
08 92 23 95 20. Il fonctionne encore pour quelques minutes.
Non, bon, juste une image et j'arrête là. J'ai fait juste le souvenir que j'ai, c'est la nuit dernière. Il y avait une espèce de cousin. Oui, c'est une espèce de grand moustique là, qui se baladait comme ça dans l'air, avec, mais ce qui était un peu inquiétant, c'est que ses pattes étaient métalliques. Et quand il tapait contre quelque chose, contre un mur, les pattes étaient métalliques. Donc ça me semblait assez inquiétant, quoi. Comme c'est tout. Je veux dire, c'est l'image que j'ai en tête, quoi.
Alors, c'est amusant parce que dans ce symbole que vous utilisez, vous avez deux connotations. Vous avez le moustique, le parasite, celui qui vous pompe votre énergie, et vous avez celui qui est cousin, qui ressemble mais qui n'est pas.
Ouais.
Qui est très voisin.
Ah oui, effectivement. Oui.
Donc, vous avez peur maintenant du vampirisme de votre père.
Oui.
Mais ce n'est plus qu'une idée qui fait encore du bruit dans votre tête.
Et le fait que ce soit métallique, parce que je me rappelle que vous avez parlé quelque chose de métallique, c'était pas bon, quoi, comme un durcissement, quoi, je veux dire, je sais pas comment dire.
Oui, c'est la forme. L'insecte, c'est l'imago.
Oui.
C'est-à-dire, dans la définition exacte de l'imago, c'est l'insecte qui atteint sa forme adulte. C'est-à-dire que son squelette exogène, sa carapace, ne bougera plus.
D'accord.
Elle est dans une forme qui est immuable, mais qui est une forme de sclérose aussi.
Ah oui, oui, tout à fait, oui.
Et donc, l'insecte, à partir du moment où il a atteint sa taille adulte, sa forme adulte, il va se dégrader.
Oui. Ah, oula, oui, d'accord.
Puisqu'il n'a plus de souplesse.
Oui, parce que c'est ça rejoint pas ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous dis que j'ai peur de concrétiser quelque chose jusqu'au bout, parce que j'ai l'impression tout de suite.
Non, parce que là, excusez-moi,
oui, allez-y.
Là vous êtes dans le film.
Oui.
C'est-à-dire que vous vous faites peur à vous-même.
Mm-hmm.
Et là, c'est l'enfant démiurge qui a longtemps créé des personnages imaginaires et maintenant qui a peur de ses créations, de ses créatures.
Oui.
Et là, vous avez construit, selon l'imago du père, vous avez perçu le père comme un personnage vampirique, un moustique, qui vient vous sucer le sang, qui vient vous faire du bruit dans la tête, dans les oreilles.
Et pourquoi vous reliez le moustique forcément au père et pas à la mère, par exemple?
Je prends là les bases que vous m'avez données, vous. Hein. Là, c'est pas dans le rêve. Hein. Mais l'imago, c'est aussi l'impression donc que vous avez de l'individu.
D'accord.
Vous avez cristallisé une forme précise. Et vous allez tendre à reproduire cette forme ou à vous en débarrasser, en avoir peur. Donc là, vous voyez que cette forme que vous amplifiez dans ces dimensions, que vous rigidifiez, donc on est vraiment dans un imago figé.
Ouais.
Cet imago, c'est une forme qui est proche du vampirisme, mais qui n'a plus que l'apparence.
D'accord.
Et donc, dans votre tête, vous y avez encore une sensation, un sentiment de bruit intérieur. Les pattes de l'insecte font du bruit dans votre tête.
Ouais.
Mais ce bruit n'est plus qu'un résidu. Vous avez des peurs qui sont, comment dire, qui viennent de loin. Je cherche le terme que je ne trouve plus.
Ouais.
Archaïque
ou quelque chose comme ça.
Oui, ou récurrente. C'est-à-dire qu'elles continuent de fonctionner, mais elles n'ont plus lieu d'être.
D'accord. Comme un espèce d'écho qui continue à se manifester alors que la source émettrice n'existe plus. Quoi.
Voilà. Vous avez la capacité maintenant de repousser cette forme.
Mm-hmm.
Et là, le fait que vous repoussiez les skateurs le prouve. Vous pouvez même repousser ce qui fait trop de bruit dans votre tête.
Mm-hmm.
Tout à l'heure, c'était la musique. Maintenant, c'est le cousin qui a des pattes métalliques.
Ouais. Oui, il y a toujours le son, effectivement. Ouais.
Et là, ce bruit intérieur, ce parasite intérieur, ce bruit de fond intérieur que vous avez, vous êtes aussi capable de vous en débarrasser.
Oui, d'accord.
Et là, de la même manière que vous avez acquis la maîtrise du langage, la maîtrise de vos colères, vous pouvez aussi acquérir la maîtrise du bruit intérieur, l'éloigner, le repousser.
Pour vous dire, je suis musicien, je suis chanteur, je suis musicien, et le problème, c'est que là, depuis un an, je ne sais plus trop quoi faire avec ma musique. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme niveau professionnel... Je sais plus si je vais continuer en tant que je sens que j'ai quelque chose à exprimer, mais je peux plus fonctionner sur le monde intérieur sur lequel je m'étais battu jusqu'à maintenant. Je sens que ça fonctionne plus, quoi. Donc ça rejoint ce que vous disiez, mais en même temps c'est une remise en cause de soi très très forte parce que c'était basé justement sur un imaginaire très fait à partir de peurs enfantines, très grossier, on va dire, très mise à la loupe, quoi.
Ah oui.
Et je sens que j'en ai marre, si vous voulez, de ça, effectivement. Ce que vous avez dit, là c'est tout à fait juste, hein, effectivement. Je sens que j'en ai marre, mais je sens que j'ai envie de continuer. Mais je sais pas de quelle façon translater, on va dire, le besoin de faire de la musique pour faire de la musique sans que ce soit perçu comme quelque chose d'envahissant.
Vous pourriez envisager un temps sabbatique de repos?
C'est-à-dire que déjà l'année dernière, j'ai pas fait grand-chose. J'ai suivi juste des cours. J'ai plus fait une seule composition depuis un an. Plus rien. J'ai un boulot alimentaire, si vous voulez, mais enfin, c'est vraiment pas...
Bah, très bien. Si vous avez un boulot alimentaire, vous pouvez aussi envisager de faire un travail de silence intérieur. Mm-hmm. Donc, par exemple, entrer dans un principe de méditation.
Oui.
Soit de vous-même, ou alors en suivant, je sais pas, une école particulière, une voie. Entrer dans une dimension de silence intérieur. Apprendre, suivre un guide qui veut vous apprendre à faire le silence intérieur. Donc, faire le silence intérieur, c'est se débarrasser des pensées parasites. Simplement regarder ces pensées comme des nuages qui passent, c'est ce que l'on dit traditionnellement.
Dans le bouddhisme ou zen, ce genre de choses.
Voilà, tout à fait. On apprend à regarder les pensées simplement comme des nuages qui traversent le ciel bleu. On s'attache pas aux nuages, ils passent. Et par moments, il y a des grands moments de ciel bleu. Mm-hmm. Et puis des pensées reviennent, mais on ne s'y attache pas, elles passent aussi comme des nuages.
D'accord. Mm-hmm.
Et ça, c'est peut-être un travail que vous auriez besoin de mettre en pratique pour savoir quelle est votre véritable orientation quand vous êtes débarrassé du bruit intérieur.
D'accord.
Parce que là, a priori, vous avez besoin de passer à un autre cap.
Bah oui, je sens qu'il y a quelque chose qui... Je sens que c'est... Oui, je fais ça pendant longtemps, et puis j'ai l'impression que ça allait avec tout un contexte qui venait de un contexte familial, on va dire, très oppressant, quoi. Et j'en ai ras-le-bol, quoi. Mais en même temps, je sens que j'ai toujours besoin de, quand même d'exprimer quelque chose, parce que ça fait partie de moi, et en même temps, je sens qu'il faut que je... Dans ce qui fait partie de moi, il faut que je laisse une partie de moi derrière, quoi. Donc le tri n'est pas du tout évident à faire, quoi.
Oui, donc un moment de repos, puisque de toute façon vous ne produisez plus. Si vous vous accordez ce temps de repos, ça peut être très très bénéfique.
D'accord. Ok, d'accord. Bon, bah je vous remercie bien. Hein.